titre et les réflexions que je vais partager avec vous. Je vous disais donc ce titre serré pour ouvert une théorie de la puissance destituante. Voilà, avant d'en venir à ces problèmes, je crois qu'il me faut un peu revenir en arrière pour interroger l'itinéraire qui m'avait amené à poser ces problèmes. Et si je devais me poser à moi-même une question, qu'est-ce que j'ai voulu faire quand j'ai entrepris cette espèce de longue archéologie du politique qui se met sous le titre Homo Sacer? Je crois qu'il ne s'agissait pas pour moi de corriger ou de réviser ou de critiquer des concepts ou des institutions de la politique occidentale. Bon, ça peut être important, mais mon but était par contre celui de déplacer les liens même du politique. Et pour cela, avant tout, d'en dévoiler les lieux et l'enjeu véritable. Et bon, je vais aller très vite là pour résumer ces points. Il m'est apparu que les lieux originaires du politique, pour la politique occidentale, c'est quelque chose comme une opération sur la vie. Une opération qui consiste à diviser et capturer la vie par son exclusion même, c'est-à-dire à inclure la vie dans les systèmes par son exclusion. Et là les concepts d'exception étaient utiles. Exception signifie étymologiquement prendre quelque chose au dehors, c'est-à-dire exclure quelque chose et l'inclure par son exclusion même. Voilà, il me semble que l'opération originaire du politique, c'est de cet ordre-là. Et la vie est quelque chose de non politique, d'impolitique, qui doit être exclu de la cité du politique. Et par cette exclusion, elle va être inclue et politisée. C'est-à-dire, la vie c'est une opération plutôt complexe et étrange. C'est-à-dire, la vie n'est pas politique en elle-même, mais elle va être politisée. Il faut qu'elle soit politisée et de cette façon, elle va devenir le fondement même du système. Vous voyez là que, donc, on peut dire que dès le début, la politique occidentale est une biopolitique, hein, parce qu'elle se fonde sur cette étrange opération d'exclure la vie comme un politique et en même temps de l'inclure par ses gestes mêmes. Voilà, donc cela veut dire que l'ailier du politique est quand même la vie, mais à travers une opération de division, d'exclusion, d'articulation, d'inclusion, etc. Donc c'est quand même la vie, donc les politiques, c'est quand même la vie capturée sous une certaine modalité. Bon, j'avais essayé donc de définir cette structure d'exception. Bon, ce qui m'était apparu, donc, que par cette opération, la vie est divisée d'elle-même et elle se présente sous la forme de la vie nue, c'est-à-dire d'une vie qui est séparée de sa forme. Mais la stratégie, il me semble, est toujours la même. On retrouve cette stratégie partout, là. Bon, moi, j'avais essayé de l'éclaircir chez Aristote. Qu'est-ce qu'il fait Aristote ? Aristote ne va jamais définir la vie. Et là, c'est, depuis toujours, c'est comme ça. Même aujourd'hui, la vie n'est jamais définie. Mais par contre, ce qui n'est pas défini est divisé et articulé. Vous savez bien, la vie végétative, vie sensible, vie des relations. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la vie, mais on sait très bien la diviser. Et comme vous savez, par la technique aujourd'hui, même produire cette division, réaliser cette division. C'est dans ce sens que, bon, dans les premiers volumes du livre, je disais donc que l'opération fondamentale du pouvoir souverain est justement cette articulation de la vie, cette production de la vie nue en tant qu'élément politique originaire. Parce que ce qui résulte de cette opération, finalement, c'est la production de cette étrange chose qu'il ne faut pas du tout la confondre avec la vie naturelle. La vie nue n'est pas du tout la vie naturelle. C'est la vie en tant qu'elle a été divisée et inclus de cette façon dans les systèmes. Voilà, bon, là on peut essayer aussi de montrer des autres aspects de cette opération plus étroitement liés à l'histoire de la politique. Par exemple, là, j'avais fait après des travaux sur les rôles de la guerre civile, hein, dans cette perspective, dans la Grèce ancienne, dans l'Athènes classique. Là, Christian Meyer et bon, d'autres historiens ont montré que au 5e siècle, en Grèce, se passe une chose très singulière, c'est-à-dire on assiste à une toute autre façon de définir l'appartenance sociale des individus. Jusqu'à ce moment-là, cet historien montre que bon, l'inclusion dans la cité, dans la police, se faisait par... Bon, il y avait par des états et des conditions sociales. Il y avait des nobles, il y avait des membres des communautés culturelles, il y avait des marchands, il y avait des paysans, il y avait des riches. Et donc l'inclusion était définie par cette pluralité des conditions. Ce qui se passe au 5e siècle, c'est l'apparition du concept des citoyennetés comme... les concepts qui va définir l'appartenance sociale des individus à la ville. Là, il appelle ça une politisation, c'est-à-dire par ces concepts de citoyenneté que nous avons hérité de la malheureusement que nous avons malheureusement hérité de la Grèce classique, la vie politique va se définir par la condition et les statuts, pas seulement formels, mais non seulement juridique, mais qui définit l'action même, hein, du citoyen. C'est-à-dire, les critères du politique vont être la citoyenneté. Et la polis, la cité, va se définir par la condition, l'action, les statuts des citoyens. Bon, là, c'est une chose qui nous apparaît tout à fait clair et même trivial, mais c'est à ce moment-là que ce concept est apparu en tant que seuil de politisation de la vie. C'est-à-dire la vie des citoyens va s'inscrire dans la cité par ce concept, qui est donc un seuil, qui définit un seuil de politisation. Bon, Meyer a dit donc la police, la cité devient un domaine qui définit la condition des citoyens en tant que clairement opposé et distingué à la maison. Polis et oikos, la maison qui définit la condition de la vie, du règne de la nécessité, de la vie reproductive, etc., est clairement, par le concept de citoyenneté, séparée de la cité. Et là, c'est un point donc important. On retrouve cette même division que dont j'avais parlé avant entre la zoé, la vie naturelle, et les bios, la vie politique. Là, on les retrouve par l'opposition de la maison, la famille, l'oikos, l'économie et la police, les politiques, tout ça. Mais là, vous voyez que donc, si je parle d'un seuil de politisation, c'est que vraiment les politiques apparaissent dans cette dimension comme un champ des tensions défini par des pôles opposés, la zoé, la vie naturelle, les bios, la vie politique qualifiée, la maison, l'oikos et la polis, la cité. Donc, c'est pas quelque chose de substantiel, c'est un champ des tensions, hein, entre ces deux pôles. Et là, on voit bien les rôles que la guerre civile va jouer dans ces champs de tension, parce que, bon, là j'étais parti des recherches de Nicole Leroux sur la guerre civile Stasis à Athènes. Leroux dit que la guerre civile est une guerre dans la famille. C'est une guerre dont le lieu originaire est justement la maison, la famille. C'est une guerre entre frères, ou entre fils et pères, et tout ça. Mais ce qui m'est apparu... prolongeant ses recherches, c'est que plutôt, non, la guerre civile fonctionne en Grèce, à Athènes notamment, comme un seuil qui va définir ces champs de force dont les pôles extrêmes sont la famille, la maison et la cité. C'est une espèce de seuil en traversant lequel ce qui n'est pas politique se politise et ce qui est politique se dépolitise. On peut dire ça, dépolitiser, oui. Et là, c'est clair tout à fait. C'est seulement si on voit la guerre civile dans cette perspective qu'on comprend des choses qui nous apparaissent très étranges, comme la loi de Solon qui dit que si, quand il y a une guerre civile, un citoyen ne prend pas les armes pour un de deux partis, il est infâme, il est exclu des droits politiques. Là, c'est une chose qui nous apparaît bizarre. Mais... Et puis, chez Platon, on trouve des tas de discours du même ordre. La guerre civile, c'est le moment où les frères deviennent ennemis et l'ennemi devient frère. Donc, confusion entre ces deux champs, la maison et la cité, la zoé et la police. Et on a un seuil entre les deux, en traversant lequel il y a une politisation de la vie ou une dépolitisation de la cité. Ça ne veut pas dire que les Grecs considéraient que la stasis, la guerre civile, c'était quelque chose de bien, mais ils voyaient en elle, justement, une espèce de seuil de politisation. Cas extrême où ce qui n'est pas politique va devenir politique et ce qui est politique va s'indéterminer dans la maison. Voilà, là c'est pour donc... Pour établir donc à la base de ma recherche, il y avait cette espèce d'hypothèse donc que les politiques étaient un champ de tension entre ces deux pôles et que entre ces deux champs de tension, il y a des seuils qu'il faut traverser. Voilà, donc ça c'était les premiers déplacements quand je disais un déplacement du lieu du politique. Voilà, là c'était un peu une première étape dans ces déplacements. Il y avait aussi après d'autres aspects qui s'étaient révélés tout à fait importants pour moi, c'est-à-dire la politique dans notre tradition de la philosophie politique a été toujours définie au fond ou bien avait au centre ces deux concepts qui sont la production et la praxis, la production et l'action. On a toujours pensé bon il y a du politique là il y a poiesis, production, et praxis, action. Et là, encore chez Hannah Arendt, c'est comme ça, les concepts politiques fondamentaux restent ceux de là. Et là aussi, il me semblait nécessaire d'opérer un déplacement. Et les deux concepts qui me sont apparus à la place comme tout à fait importants pour définir une nouvelle idée du politique, c'est au contraire, bon, des concepts que je vais nommer rapidement. D'une part, l'usage, et de l'autre, quelque chose qu'en français on pourrait traduire par désœuvrement, à condition d'entendre désœuvrement au sens actif, c'est-à-dire une action qui désœuvre, qui rend inopérant quelque chose. Moi, je vais très vite vous dire quelque chose sur ces deux concepts qui me paraissent importants. D'abord, le concept d'usage. J'avais rencontré ce concept depuis longtemps dans beaucoup de domaines, mais tout à coup, c'était en lisant la politique d'Aristote. Vous savez qu'au début de la politique d'Aristote, il y a cette chose quand même assez étrange. Les traités sur la politique commencent par un petit traité sur l'esclavage. C'est-à-dire les premières 30 pages de la politique d'Aristote sont un traité sur l'esclavage, sur la relation maître-esclave. Mais ce qui avait attiré mon attention, c'est que dans ce contexte, donc il est en train de définir, avant de définir l'objet du politique, Aristote définit l'esclave comme un homme, un être humain, mais il ne fait pas de doute pour Aristote que l'esclave est un être humain, dont l'œuvre propre, ergon en grec, l'œuvre propre, est l'usage du corps. Il dit rien d'autre, il dit cette étrange chose. L'esclave est un homme dont l'œuvre propre est l'usage du corps. Et il n'explique pas cela, et en effet les historiens ne se sont pas arrêtés sur cela, mais cela me semblait très, très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, usage du corps? Et là donc j'ai un peu travaillé sur, d'abord pour comprendre, au point de vue sémantique et immédiat, qu'est-ce que ça veut dire usage du corps? Et je suis tombé sur ces faits linguistiques d'abord, que les verbes qu'en grec et en latin nous traduisons par user, utiliser, faire usage, krestai en grec et outi en latin, n'ont pas de signification propre. C'est des verbes qui tirent leur signification du mot qui les suit, qui n'est pas l'accusatif, mais au datif, au génitif. J'ai fait des exemples très simples parce que c'est important. Par exemple, le grec « krestai theo », littéralement, ça veut dire « faire usage du Dieu ». Faire usage du Dieu, mais la signification, après, que vous trouvez dans le dictionnaire, c'est « consulter un oracle ». Krestai nostu, faire usage du retour. C'est pas du tout ça, ça veut dire éprouver de la nostalgie. Faire usage du retour. Faire usage, krestai symphora, très étrange, faire usage du malheur. Mais ça veut dire être malheureux. Krestai polei, faire usage de la cité. Ça veut dire participer à la vie politique, agir politiquement, etc. Oui, cresta guneki, faire usage d'une femme, ça veut dire faire l'amour avec une femme. Et puis, très banalement, cresta keri, faire usage de la main, ça veut dire donner un coup de poing. Voilà. Et ça, en latin, c'est la même chose. Donc, c'est un verbe, vous voyez, qui n'a pas de signification propre, mais reçoit de sa signification par son complément qui n'est pas l'accusatif mais au datif. On se donne à cette chose. Si on se donne à cette chose, on en fait usage. Là, on voit bien une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est-à-dire que les analyses grammaticales sont des analyses philosophiques et métaphysiques même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre une chose si on ne comprend pas que la grammaire a contient en elle-même toute une métaphysique qui s'est cristallisée dans les langages. Et là donc, bon, il y avait des analyses de ces très grands linguistes benveniste qui montraient que ces verbes de ce genre, comme cresta, iuti et bien d'autres, sont des verbes qu'on a classifiés toujours dans la grammaire comme des moyens, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni actifs ni passifs. Et donc là, Benveniste essaye d'éclaircir la signification de ces verbes qui ne sont ni actifs ni passifs. Et il dit, bon là, dans les moyens, dans ces verbes-là, et tandis que normalement, par exemple dans l'actif, les procès, l'action est extérieure au sujet, il y a un sujet actif qui agit au dehors de lui-même, dans les moyens, les verbes indiquent un processus qui a lieu dans les sujets. C'est-à-dire, les sujets est intérieur au processus. Bon, il suffit d'exemples, c'est très clair. Le grec gignomai, ou le latin nascor, naître. Naître. Ou bien mourir, morior. Ou bien patior, souffrir. Ou tout simplement keimai, gire, être étendu. Etc., etc. Jouir. Jouir. En grec, fungor, en latin, fruor, jouir. Vous voyez bien, c'est des verbes où le sujet est intérieur à l'action et l'action est intérieure au sujet. Indétermination absolue entre, non seulement entre actif et passif, mais aussi entre sujet et objet. Bon, Benveniste essaye de définir encore mieux et à un certain moment, il donne cette définition qui était pour moi très éclairante. Et il s'agit, il dit, chaque fois de situer les sujets par rapport au processus, selon qu'ils soient extérieurs, comme dans l'actif, ou intérieurs, et de qualifier l'agent selon que dans l'actif, il effectue une action, et dans les moyens, étrange formule, il effectue en s'affectant, c'est-à-dire en agissant, en effectuant une action, il va en être affecté lui-même. Cette formule, il l'effectue en s'effectuant, en s'affectant, ça a été très important pour moi. Là, vous voyez bien que les moyens, pourquoi c'est moyen, donc ce n'est ni actif, passif, ni sujet, ni objet. On pourrait dire que, par exemple, donc, les verbes cresta et faire usage expriment la relation qu'on a avec soi, l'affection qu'on reçoit en tant qu'on est en relation avec autre. jouir, faire usage du retour, être, éprouver de la nostalgie. Donc c'est l'affection qu'on reçoit en tant qu'on est en relation, là, le retour, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire, les sujets sont créés par l'affection qu'il reçoit par sa relation à autre chose. Ça change complètement la notion des sujets. Il n'y a plus de sujets, ni d'objets, ni actifs, ni passifs. C'est vraiment toute une autre ontologie, là, l'ontologie au moyen. Et donc, si on revient à cette idée de l'usage du corps, qui est devenu après, pour moi, très important pour définir les politiques, on pourrait imaginer donc cette expression « cresta et somatos », « faire usage du corps », et cela voudrait dire l'affection que l'on reçoit en tant qu'on est en rapport avec des corps. L'affection qu'on reçoit en tant qu'on est en rapport avec des corps. Bon, à mon avis, ça, c'est la vie en tant que lieu véritable du politique. L'affection qu'on reçoit en tant qu'on est en rapport avec des corps. Là, vous voyez, s'il y avait un sujet du politique, donc ce ne serait pas quelque chose qui précède, c'est celui qui est affecté par sa relation avec des corps. Je ne sais pas si c'est clair cette idée donc, de l'usage. C'est pour ça que ces concepts d'usage m'apparaissaient très importants. Et si on l'emploie comme ça, il devient vraiment la catégorie centrale qui va substituer les concepts d'action, praxis. Un concept dont je ne vais pas du tout faire la critique, qui est très important, qui a eu une histoire fondamentale dans la politique occidentale, dans l'éthique, etc. Mais justement, c'est un concept à l'actif ou au passif. Et donc, il reste emprisonné dans cette dialectique, tandis que là, dans cette ontologie, cette politique au moyen, on a un tiers qui n'est ni actif ni passif. C'est encore une action, mais qui est en même temps un être affecté par son action ou par sa passion. Est-ce que cela est clair ? Bon, le deuxième concept, c'était celui des désœuvrements. Je vous disais, désœuvrements, là, il faut donc l'entendre comme s'il existait un verbe actif œuvré ou ouvré. En ancien français, il existait. Désœuvrer, ce serait donc rendre inopérant, désactiver une œuvre. Donc, ce n'est pas du tout une absence, ce n'est pas du tout une inertie, ce n'est pas du tout. Ne rien faire, ce qui est aussi important, mais c'est par contre une forme encore d'action, de praxis, ou d'œuvre, une opération qui consiste à désœuvrer les œuvres. Qu'est-ce que je voulais donc entendre par cela? D'abord, il y avait un passage dans l'éthique d'Aristote qui m'avait toujours semblait important. C'est un moment où Aristote, dans l'éthique, essaye de définir les sciences politiques, l'épistème politique, en tant qu'il a son but dans les bonheurs, etc., etc. Et à ce moment-là, il pose une question qui lui apparaissait quand même absurde, mais qu'il pose très sérieusement. Il dit, donc le concept d'œuvre, ergon, qui définit donc l'activité propre, le but propre, l'énergie propre de chaque être, il dit, mais est-ce qu'on devrait dire que pour les menuisiers, il y a une œuvre? Pour les joueurs de flûte, il y a une œuvre, bien sûr, jouer la flûte. Pour les sculpteurs, il y a une œuvre, faire des statues, etc. Pour mais est-ce qu'il y a quelque chose comme une œuvre pour l'homme en tant que tel? Est-ce que l'homme en tant que tel, peut-on en définir une œuvre comme on le définit pour les menuisiers, les sculpteurs, les chanteurs, l'architecte, etc. Et à ce moment-là, il dit, ou bien doit-on penser que l'homme en tant que tel, il est argos, c'est-à-dire sans ergon, désœuvré, sans œuvre. Est-ce que l'homme en tant que tel n'a pas un ergon propre, une œuvre propre, un but propre, une vocation propre, une définition possible, etc. Bien sûr, Aristote pose cette question, mais la laisse tomber, parce que lui, par contre, a une réponse. Il va dire que l'ergon de l'homme, c'est l'activité selon les logos, etc., etc. Mais moi, par contre, j'avais été frappé par cette possibilité. Et je maintenais plutôt à cette chose qu'il avait posée comme une hypothèse un peu étrange, c'est-à-dire l'idée que, par contre, il faut la prendre au sérieux, l'homme est un être qui manque d'un ergon propre. L'homme, en tant que tel, n'a aucune vocation biologique, sociale, religieuse, ou n'importe de quelle nature, qui puisse les définir essentiellement. L'homme n'a pas d'œuvre, est un être désœuvré dans ce sens. Et on pourrait aussi dire un être de puissance qui n'a pas d'acte, qui n'a pas d'ergon propre. Mais justement, il me semblait que c'est là ce qui peut permettre de voir et de définir pourquoi alors y a-t-il de la politique, pourquoi y a-t-il de la politique, pourquoi y a-t-il de... Justement, parce qu'il n'y a pas... Si l'homme avait un ergon propre prédéterminé, je ne sais pas, par la nature, par la biologie, par le destin, tout ça, il me semble qu'il n'y aurait pas ni d'éthique ni de politique possible, parce qu'on ne devrait qu'exécuter des tâches, qui est l'action plus misérable, qui me semble, qu'un homme puisse faire, exécuter des tâches. Voilà, donc j'avais essayé de prendre au sérieux ces concepts, donc d'essayer de définir les désœuvrements, et en essayant de définir ces désœuvrements, bon, d'abord, ce n'est pas une suspension de l'activité, c'est une forme particulière d'activité. Et deuxièmement, j'avais immédiatement vu que dans l'histoire de la pensée occidentale, c'était justement un problème qu'on n'avait jamais posé. C'est-à-dire, bon, l'idée que, bon, toute idée d'inactivité, surtout dans le monde moderne, à partir du christianisme, l'idée que, par exemple, Dieu puisse être un être oisif, ah ben, c'est quelque chose qui répugne aux théologiens. Dieu non seulement crée le monde, mais ne cesse de les créer, ne cesse d'agir, ne cesse de les gouverner. La création est continuée, continue, comme vous savez. Et l'idée qu'un Dieu puisse être inactif ou désœuvré, ça, c'est une chose monstrueuse pour les théologiens. Mais non seulement pour les théologiens, je crois que toute la tradition de la modernité est une tradition qui se fonde sur le refoulement de quelque chose comme le désœuvrement. Et là, on pouvait voir les lieux où ces problèmes apparaissaient. Par exemple, un des lieux où ce problème a été, par contre, pensé, c'est le problème de la fête. Mais la fête est un lieu où, dans notre tradition, on essaie de donner une place au désœuvrement. Et bon, là, dans notre société moderne, c'est un peu calqué sur le concept du Shabbat. Et c'est-à-dire là, c'est la suspension de l'activité. La fête consisterait à suspendre l'activité. Donc ce serait une suspension provisoire des activités productives. Voilà, là vous voyez en même temps, le problème est perçu, mais en même temps il est bien limité dans des limites qui excluent, qui rend impossible de les penser véritablement. Et par contre, si on réfléchit à la fête même, on voit bien que ce n'est pas du tout la définition de la fête, ce n'est pas du tout la suspension du travail, parce que dans la fête, même dans la Shabbat, où toute activité productive est interdite, on fait des choses, on fait des repas, et dans les fêtes, on s'échange des dons, on fait des choses, mais toutes les choses qu'on fait sont soustraites à l'ère économie propre, sont destituées de leur économie propre. C'est-à-dire, si on mange, ce n'est pas pour se nourrir, c'est pour être ensemble et faire l'expérience d'une festivité, puisse-t-on dire, une festivité. Si on s'habille, ce n'est pas pour se protéger du froid, c'est là aussi pour autre chose, pour un autre usage. Et surtout, si on s'échange des choses ou des dons, c'est pas par un échange économique, mais c'est justement les dons, etc. Donc vous voyez qu'au fond, la fête est définie non pas simplement par une action, mais par un genre particulier d'opération. C'est-à-dire, les activités humaines sont soustraites à leur économie propre et par cela ouvertes à un autre usage possible. Là, par exemple, dans les folklores, c'est plein de ces choses. Les fêtes des morts dans les folklores siciliens qu'on retrouve dans les pays anglo-saxons, à Halloween. Halloween, les enfants, c'est les morts. Vous savez, non, c'est les morts qui réapparaissent. Qu'est-ce qu'ils font, les morts ? Ils prennent les choses qui sont dans une certaine économie et en la soutrayant à cette économie, on l'ouvre à cette chose qu'on appelle les traînes, les cadeaux, etc. Non, là, pour vous montrer tout simplement qu'on peut très bien penser une activité comme celle qu'on fait dans la fête qui ne se limite pas à suspendre une économie, une action, une œuvre, mais aussi en fait un autre usage. Mais cet élément destitutif de la fête me paraît très important. C'est soustraire une chose à son économie propre pour, donc la désœuvrer, pour en faire un autre usage. Par exemple, là, bon, les anciens disaient « il n'y a pas de fête sans danse ». Mais qu'est-ce que la danse si ce n'est justement qu'une libération des gestes et des mouvements du corps de leur économie propre ? Qu'est-ce que c'est que la danse si ce n'est que soustraire les gestes à une certaine économie, une certaine direction, hein, et l'exhiber en tant que telle, hein, en la désœuvrant ? Et la masque, c'est la même chose. Qu'est-ce que la masque si ce n'est qu'une neutralisation du visage, hein ? La masque va rendre inopérant les visages, va désœuvrer les visages, mais en cela, en montre, en expose quelque chose même de plus vrai. Bon, là, c'était justement uniquement pour vous faire des exemples, pour ne pas rester dans l'abstrait. Un autre exemple qui me semble tout à fait clair pour comprendre qu'est-ce que c'est les désœuvrements. Qu'est-ce qu'un poème ? Un poème, c'est une opération linguistique qui est liée dans les langages comme tout autre. Il n'y a pas un autre lien pour les poèmes. Les poèmes n'est pas dans une autre langue. Le poème est une opération langagière dans les langages. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, là encore, on voit que les langages est désactivé de sa fonction informationnelle, communicative et tout cela. Et par ces désœuvrements, il est ouvert à un autre usage, ce qu'on appelle poésie. C'est pas facile de dire qu'est-ce que c'est, mais une définition très simple, c'est soustraire le langage à son économie informationnelle, communicationnelle, et bon, cela va faire ce qu'on appelle cet autre usage du langage qu'on appelle poésie. Bon, là, c'est quelque chose que je crois qui fait partie vraiment presque anthropologiquement de la condition humaine. Parce que, par exemple, la bouche, vous savez, la bouche est une partie de l'appareil digestif de l'homme. C'est même la première partie, le premier élément de l'appareil du système digestif. Qu'est-ce que fait l'homme ? L'homme détourne la bouche et ses parties de cette fonction pour en faire l'allié du langage. Et donc, tous les dents qui servent à mâcher, maintenant, vont faire les dentales, la langue, et tout ça. Donc, vous voyez, l'homme marche par désœuvrement même des fonctions biologiques. Les fonctions même biologiques du corps sont ouvertes à un autre usage. Et bon, les baisers, c'est la même chose. Les baisers prennent cet élément digestif et en fait un autre usage. Là, c'était tout simplement j'espère que ce soit clair, donc les désœuvrements, c'est une activité propre de l'homme qui consiste à désœuvrer les œuvres biologiques, économiques, religieuses, juridiques, sans simplement les abolir. Le langage n'est pas aboli. Par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être un désœuvrement de la loi ? on va aller voir, la loi n'est pas simplement abolie, mais elle est soustraite à son horrible économie et on peut en faire peut-être un autre usage. Voilà, et là, enfin, je peux en venir à mon problème de la puissance destituante. Parce que si on met au centre de la politique non plus la poiesis et la praxis, la production et l'action, mais on met au centre l'usage et le désœuvrement, eh bien alors tout change dans la stratégie politique. Notre tradition a hérité ces concepts de la Révolution française, les pouvoirs constituants. Là, par contre, on doit penser quelque chose comme une puissance destituante. Pourquoi ? Parce que justement, les pouvoirs constituants sont solidaires de ces mécanismes qui va faire que tout pouvoir constituant va fonder un nouveau pouvoir constitué. Ce qu'on a toujours vu, les révolutions, ça se passe comme ça. On a une violence qui va constituer les droits, un nouveau droit, et après, on aura un nouveau pouvoir constitué qui va se mettre en place. Tandis que si on était capable de penser un pouvoir purement destituant, pas un pouvoir, je dirais donc pour cela une puissance purement destituante, on arriverait peut-être à briser cette dialectique entre pouvoir constituant et pouvoir constitué, qui a été, comme vous le savez, la tragédie de toutes les révolutions. Parce que c'est ça qui s'est passé. Donc, on les voit partout, même maintenant, je parle dans la révolution du printemps arabe, immédiatement, donc on a fait des assemblées constituantes, et bien après ça a été suivi par quelque chose qui est pire de ce qu'il y avait avant. C'est le nouveau pouvoir constitué qui s'est mis en place par ces mécanismes diaboliques du pouvoir constituant qui devient pouvoir constitué. Donc, à mon avis, c'est des concepts qu'il faut avoir le courage d'abandonner. En finir avec le pouvoir constituant. Je sais pas, le pauvre nègre ne serait pas d'accord. Bon, mais il faut penser un pouvoir qui, une puissance qui reste, qui est la force d'être, de rester destituante. Bon, là, ça nous engage à toute une autre, non seulement à élaborer une autre stratégie, parce que donc, par exemple, si on pense une violence, cette violence doit être purement destituante. Il faut faire attention, si c'est une violence qui va constituer un nouveau droit, on est perdu. Vous voyez, donc il faut penser les concepts de révolution, d'insurrection, tout ça, de toute autre façon, ce qui n'est pas facile, là, je ne dis pas que c'est facile. Là, je voulais donc uniquement donner quelques repères. C'est tout un travail à faire, que vous devez faire aussi, et que moi aussi, je vais essayer de faire. Mais pour l'instant, comme c'est un travail en cours, je voulais uniquement vous donner quelques éléments du moment où il me semble que dans notre tradition, on a essayé de penser cela. Bon, la première chose qui vient immédiatement à l'esprit, c'est l'essai de Benjamin sur la critique de la violence. Parce que bon, c'est un essai qui est vraiment, si on le lit dans cette perspective, c'est un essai qui a vraiment cela à son centre. Parce que là, dans cet essai, Benjamin, justement, essaye de penser ce qu'il appelle une violence pure. On va faire des exemples. C'est-à-dire une violence qui ne va jamais poser un nouveau droit. C'est-à-dire une violence qui serait capable de briser ce qu'il appelle la dialectique entre la violence qui pose les droits et la violence qui les conserve. Bon, notre système politique, c'est ce qu'on avait appelé avant pouvoir constituant et pouvoir constitué, c'est ça. Notre système politique se fonde sur l'idée, par exemple, il y a des révolutions, des changements, là on a une violence qui fonde un nouveau droit et immédiatement après, cela se traduit dans une violence qui va les conserver. Et Benjamin dit ça, c'est le mécanisme qu'il faut briser. Et donc, il essaye dans ce texte de penser ce qu'il va appeler une violence pure, une violence divine, n'importe. Et c'est justement, il va le définir par une violence qui va, il emploie un verbe allemand, entsetzen, qui va déposer les droits sans fonder un nouveau droit. C'est-à-dire une violence qui brise son rapport avec les droits. Bon, il essaie de trouver des exemples par ça dans la mythologie grecque, mais surtout dans l'idée des sorelles, des grèves générales prolétaires. Il voit dans la grève générale prolétaire une forme de violence pure dans le sens qu'elle ne va pas constituer du droit. Elle va pas vraiment, elle n'est pas dirigée à obtenir et à constituer un nouveau droit. C'est une violence qui reste purement destitutive par rapport au droit existant. Bon, là, c'est un exemple qui me semble important quand même, parce qu'il a bien vu que le problème, c'est justement briser ses rapports. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est ce que Paul essaye de faire dans ses lettres. C'est-à-dire, Paul va définir les rapports entre les Messies et la Torah, la loi juive. Il va la définir toujours par un verbe qui est tout à fait ce qu'on a dit avant, un verbe grec qui est katargen, qui veut dire rendre argos, rendre inopérante, désactiver. C'est-à-dire, Paul dit, mais nous, bien sûr, on est des juifs, on ne va pas détruire la loi, la Torah, on ne va pas la détruire, on va la rendre inopérante, on va la rendre argos, la désœuvrer. Et donc le Messie n'est pas quelqu'un qui tout simplement abolit la loi, c'est quelqu'un qui la désœuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment son problème, penser un rapport à la loi qui, sans tout simplement la nier et l'éliminer, n'est ni le fait qu'on doit exécuter des commandements, des intolérances. C'est tout autre rapport à la loi. Bon, là, c'est un trait du messianisme juif qui va jusqu'aux formes qu'il a prises dans le XVIIe siècle, dans le sens que bon, l'accomplissement de la loi, c'est sa transgression, comme dit Sabbataïsé. Mais donc, dans le messianisme, il y avait ces problèmes. Penser un rapport à la loi qui ne soit pas son exécution, son application. Bon, ça c'est très intéressant. Là. Donc, est-il possible de penser un rapport à la loi qui la désactive, qui la rende inopérante en tant que commandement et en permet un autre usage? Bon, c'est ce qu'on appelle après, c'est ce qui était au début pour Paul, ce qu'après est devenu le christianisme qui a complètement trahi cette chose. Mais par exemple, il y a une chose qui peut être utile dans cette perspective. Et Paul a dit à un certain moment, pour comprendre ce que ça pourrait être, ces rapports à la loi qui ne l'exécute pas sans l'abolir, il dit, pour exprimer la condition des messianiques, là, il dit, la condition maintenant, c'est que ceux qui ont une femme comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui plairent, comme s'il ne plairait pas, ceux qui se réjouissent comme s'il ne se réjouissait pas, ceux qui achètent une maison comme s'il ne la possédait, etc., etc. Parce que comme non, et après il va dire, par exemple, tu es né dans une certaine condition sociale, tu es esclave, par exemple, fais-en usage. Il emploie cette expression du verbe crescere, c'est-à-dire le problème n'est pas tout simplement tu es esclave, je vais devenir libre. D'abord, fais-en usage. Apprendre à faire usage de ta condition, donc à la désactiver, à la rendre inopérante par rapport à toi-même. Et en cela, c'est une possibilité proprement désœuvrante qui va rendre possible un autre usage de ta condition. Bon, là, ce n'était que des exemples. Je ne suis pas en train de dire c'est ça qu'il faut faire. C'était juste pour vous montrer que dans certains moments de notre tradition de pensée, on a quand même posé ces problèmes. Voilà. Bon. Et voilà. Et là, c'est une chose qui me semble aussi importante. Il me semble que c'est cette puissance destituante qu'on a essayé, que la pensée du XXe siècle a essayé de penser, sans y réussir vraiment. Ce qu'Heidegger pense comme destruction de la tradition, ce que Schurman pense comme déconstruction de l'arché, tout ça. Il me semble que ce que Foucault pense comme archéologie philosophique, c'est-à-dire remonter à une certaine arché, un certain a priori historique et essayer de les neutraliser. Bon, il me semble que ce que moi-même j'ai essayé de faire, il me semble que c'est des essais qui vont dans cette direction sans peut-être vraiment y arriver, quoi. Mais c'est cela qu'il. C'est la destitution des œuvres du pouvoir, pas simplement l'abolition, hein. La destitution des œuvres, qui est justement c'est quelque chose évidemment de très difficile. Et parce que, pourquoi? Parce que aussi, je pense qu'on ne peut pas la réaliser uniquement par une praxis. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas quelle forme d'action va-t-on trouver pour destituer le pouvoir. Non, ce qui va pouvoir destituer le pouvoir, ce n'est pas une action, c'est uniquement une forme de vie. Ce n'est que par une forme de vie que le pouvoir destituant peut s'affirmer. Donc, ce n'est pas cette activité-là, cette praxis-là, non, c'est la construction d'une forme de vie. Donc, vous voyez pourquoi c'est difficile, parce que, bon, bien sûr, donc, il ne s'agit pas de ah, telle action, on va faire ça, on va faire ça. Ça ne suffit pas. Non. Il faut d'abord constituer une forme de vie. Voilà. Et là, on peut en revenir. Donc, pourquoi est-il si difficile de faire cela? Pourquoi, par exemple, est-il si difficile de penser des choses comme l'anarchie, l'absence de commandement, l'absence de pouvoir, l'anomie, l'absence de loi? Pourquoi c'est si difficile de penser ces concepts qui pourtant semblent contenir quelque chose? Eh bien, c'est difficile parce que, par la raison que j'essayais de définir au commencement, c'est-à-dire, Benjamin dit une fois, la véritable anarchie est la vérité est l'anarchie de l'ordre bourgeois. Et dans les films de Pasolini, Salò, je ne sais pas, vous vous rappelez, un des quatre généraux fascistes dit à un certain moment, l'anarchie véritable est l'anarchie du pouvoir. C'est quelque chose qu'il faut prendre à la lettre. Pourquoi? Donc les pouvoirs marchent par capture de l'anarchie. Le pouvoir qu'on a en face, c'est un pouvoir qui ne fonctionne que parce qu'il a réussi à inclure. Toujours ce processus de l'exclusion incluante, l'anarchie. Même chose, l'anomie, ce qui est maintenant évident par l'état d'exception. Ben, notre pouvoir marche en étant capable d'inclure, de capturer l'anomie. Parce que l'état d'exception, c'est une absence de loi, tout simplement, mais c'est une absence de loi qui va devenir intérieure au pouvoir, à la loi. C'est cela qui rend difficile. Donc, nous, on a en face. Pourquoi on ne peut pas accéder à l'anarchie, on ne peut pas accéder à l'anomie, et même là, on pourrait continuer. Notre pouvoir dit démocratique se fonde en effet sur l'absence du peuple. On pourrait dire une adémie. Démos veut dire peuple. Là aussi, c'est quelque chose qui. La démocratie qu'on a en face, c'est quelque chose qu'on a, par les mécanismes ridicules de la représentation, à capturer. L'adémie en son centre, l'absence de peuple. Voilà, mais c'est justement cela qui rend si compliqué l'essai de accéder à l'anarchie, accéder à l'anomie. On ne peut pas accéder immédiatement parce que d'abord, il faut désactiver, désœuvrer, destituer l'anarchie du pouvoir. C'est-à-dire, la véritable anarchie n'est rien d'autre que la destitution de l'anarchie du pouvoir. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas la penser, parce que si on essaie de penser l'anarchie, on a en face ce que le pouvoir en a fait, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous, le désordre. Si on essaie de penser l'anomie, bah, cette chose absurde, l'anomie manque de loi, le chaos, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas vrai, c'est faux. Ça, c'est l'image que la capture de l'anarchie et la capture de l'anomie nous laissent en face. Et donc, mais si d'abord on arrive à désactiver l'anarchie qui a été capturée par le pouvoir, l'anomie qui a été capturée par le pouvoir, peut-être donc la véritable anarchie pourrait apparaître. C'est pour ça que des travaux comme ces anthropologues comme Clastres et Sigrist sont importants, parce que là, par exemple, ils montrent très clairement que ce n'est pas du tout vrai. Si on voit les sociétés primitives, on voit l'anarchie, mais ce n'est pas du tout ce que. notre tradition politique nous présente. Par exemple, le livre de Sigrist, bon, lui, il emploie la formule anarchie contrôlée. C'était pour dire, mais non, oui, c'est une absence de pouvoir, mais ce n'est pas du tout la guerre de tous contre tous, le chaos, c'est des formes différentes. Et c'est qu'aussi Illich a essayé de penser par ces concepts de vernaculaire, non, où il montre c'est pas l'anarchie qu'on croit. Bon. Voilà, mais une chose que je voulais donc importante, qui me semblait importante, c'est cette chose-là. On ne pourra pas accéder à une véritable pensée de l'anarchie si d'abord on neutralise l'anarchie que les pouvoirs contiennent en son centre. Voilà, je vous avais dit d'abord que ça, ce n'est pas uniquement une tâche théorique. Ce que j'avais dit avant, il me semble que cela ne sera possible, cette opération de désœuvrement du pouvoir, que par, de destitution pardon, du pouvoir, que par une forme de vie. Donc ce n'est pas tout simplement trouver la bonne action, c'est constituer d'abord des formes de vie. Je dirais même qu'une forme de vie, c'est justement là où on rejoint quelque chose qui d'elle-même va être destituante. Bon, j'avais essayé de définir ce concept des formes de vie, là, au début de ma recherche, comme une vie qui ne peut pas être séparée de sa forme. Hein, c'est-à-dire une vie pour laquelle, dans son mode de vie, hein, est en jeu la vie même. Donc, c'est une vie qui met en jeu, pour laquelle sa vie même est en jeu dans sa façon de vivre. Vous voyez là donc, il ne s'agit pas tout simplement de modes de vie différents, tout ça, mais c'est des modes de vie qui ne sont pas tout simplement des choses factuelles, mais c'est des possibilités. Hein, des possibilités. Et Tikkun avait développé cette définition de façon, il me semble, très intéressante dans trois thèses que je vous lis. Ils sont dans les numéros D de Tikkun. Bon, une thèse, c'était « L'unité humaine n'est pas le corps ou l'individu, c'est la forme de vie. » 2. « Chaque corps est affecté par sa forme de vie comme par un clinamen, une attraction, un goût. » 3e point « Ma forme de vie ne se rapporte pas à ce que je suis, mais à comment je suis ce que je suis. » Bon, ça me semble une chose importante. Là, d'abord, bon, c'est quelque chose de la forme de vie, c'est quelque chose comme un goût, un passion, un clinamen, c'est quelque chose d'ontologique là, qui affecte un corps. Mais aussi, ce dernier point sur lequel je voudrais maintenant m'arrêter un instant, le concept du comment. Hein, c'est l'important, ce n'est pas ce que je suis, mais comment je suis ce que je suis. Bon, dans la tradition de l'ontologie occidentale, ce serait ce qu'on a essayé parfois de penser comme une ontologie modale. Bon, vous connaissez peut-être la thèse de Spinoza, il n'y a que l'être, la substance et ses modes, ses modifications. Il n'y a que Dieu et ses modifications qui sont les êtres singuliers. Les êtres singuliers, ce n'est que des modes, des modifications de la substance unique. Mais là, je crois qu'il faut encore poursuivre, là, éclaircir. La substance, l'être, n'est pas quelque chose qui précède les modes et existe indépendamment de ces modifications. L'être n'est rien d'autre que ces modes d'être. La substance n'est que ces modifications, n'est que son comment. Et là, vous voyez, c'est toute une autre ontologie qu'il faudra penser, dans le sens que bon, l'ontologie a toujours été définie par ces deux concepts identité-différence. Donc on a essayé de penser les problèmes, par exemple, un et multiple par identité-différence, c'est la différence ontologique, etc. Il me semble là aussi que ce qu'il faudrait penser, c'est un tiers qui va neutraliser cette couple identité-différence. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là, par exemple, que si on prend la thèse spinoziste qu'on a toujours défini des panthéistes, c'est-à-dire Deus sive natura, Dieu ou bien la nature. Dieu ou bien la nature. Il ne faut pas croire que cela veut dire Dieu égale nature. Parce que là on retombe dans identité-différence. Non, Dieu, Deus sive, c'est sive, il faut penser. C'est si, c'est ou bien, qui exprime justement la modalisation, la modification, c'est-à-dire la neutralisation et l'élimination aussi bien de l'identité que les différences, que des différences. Divin, ce n'est pas l'être en soi, mais c'est son ou bien, son si, ses modifications. Je ne sais pas si on pourrait dire, c'est l'effet de se naturer dans ces modes, c'est naître dans ces modes. Vous voyez donc la différence. Tous les côtés, toutes les critiques qu'on a fait au panthéisme, dans le sens, ben, c'est absurde de penser que être égale mode, Dieu égale nature, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est faux. C'est pas ça. Dieu, si, se modalise. C'est la modalisation, la modification qui est importante. Dieu, divin n'est que ce processus de modification. Et là aussi, pour cela, il faudrait penser différemment, il me semble, le rapport entre la puissance et l'acte. La modification n'est pas une opération par laquelle quelque chose qui était en puissance, l'être ou Dieu, s'actualise, se réalise, et s'épuise en cela. Non, c'est que, aussi bien dans les cas du panthéisme que dans les cas d'une forme de vie, va désactiver les œuvres, et surtout une expérience de la puissance en tant que telle, mais de la puissance en tant qu'habitus. Hein. Cet usage habituel, on pourrait dire, de la puissance, qui va se manifester dans ces désœuvrements, justement. Qui a aussi la forme, chez Aristote, d'une puissance de ne pas, hein, puissance de ne pas être, de ne pas faire, mais qui est surtout un habitus, un usage habituel. Hein. Une forme de vie. Hein. Qu'est-ce que c'est une forme de vie? Une forme de vie, c'est un usage habituel de la puissance. Et donc, il ne faut pas penser une puissance, je dois la mettre en acte, la réaliser. Non, c'est un habitus, c'est un usage habituel. Bon, voilà, je crois qu'on peut finir là. Bon, oui, donc, dans ce sens, tous les êtres vivants sont dans une forme de vie, mais cela n'est pas équivalent à dire tous les êtres vivants sont une forme de vie. Parce que, justement, c'est... Une forme de vie, c'est quelque chose qui va rejoindre cet usage habituel de la puissance qui va désœuvrer les œuvres. Bon, je crois que j'ai même dit trop là. Voilà, non, une chose qu'on avait discuté l'autre soir avec Mila, ça implique aussi qu'il y a un autre concept politique de notre nation qu'il faut repenser, c'est celui d'organisation. Parce que vous comprenez, si la définition que j'ai donnée d'une forme de vie est correcte, la forme de vie, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut prétendre d'organiser. Elle est déjà en elle-même, pour ainsi dire, complètement organisée. Hein, on peut pas, qui va organiser des formes de vie, puisque la forme de vie est justement le moment où on a rejoint l'usage habituel d'une puissance. Voilà, donc c'est un des problèmes majeurs aussi de notre tradition politique, le problème de l'organisation politique, à mon avis, il faut le repenser. Voilà, c'est tout.